Bienvenue dans ce nouvel épisode du Paddock, le troisième de cette saison 6. Mon nom est P.O. Doucette, accompagné de Jean-Michel Tremblay. Bienvenue, bienvenue. Salut Jean-Mich!
Hey, salut, bon lundi. La glace est cassée, enfin. Bien content que notre saison de Formule 1 soit commencée, puis de manière assez, on est rentré dedans assez raide.
On est rentré dedans assez raide. Écoute, ça a été un super Grand Prix. J'ai adoré mon week-end. C'est sûr qu'on était hype hein, quand la F1 revient. Là, écoute, on dirait que quand ça fait longtemps qu'on n'a pas eu quelque chose, là, ça fait longtemps qu'on n'a pas pris une petite bière, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu quelqu'un, on vient hype. Donc, très content que ce soit de retour. Salut Marie-Ève, salut Étienne, salut Maxime, Sébastien aussi qui sont là. Donc, merci d'être là ce soir. Si vous avez des commentaires sur la course, vous le faites, vous venez jaser avec nous. Salut Kevin! Puis on tripe ensemble, tout simplement. C'est ça, le podcast Le Paddock. Vous nous dites également vos impressions sur cette course. Dame Nature pour contribution au spectacle. Ouais, ça a été une des drivers of the day. Je pense qu'on a des petits trucs qui apparaissent dans le bas, Jean-Mich. Je sais pas si c'était... Ouais. On voit le dernier commentaire qui apparaît.
Encore une fois, on est en mode apprentissage de notre nouveau système. Là. Fait que, mettons, ce soir aussi, on va essayer, quand vous avez des questions, peut-être pour que tout le monde puisse avoir le temps de la lire comme il faut, on va vous la poster un petit peu en bas, là, comme on fait présentement là, avec les gens, mettons, qui envoient des commentaires ou des questionnements. Fait que ça permettra à tout le monde de pouvoir suivre aussi et de donner son opinion. Là. Des fois, on sait que ça peut défiler quand même assez vite dans le fil. Là. Fait que, on va essayer ça. On verra qu'est-ce que ça donne.
Qu'est-ce que ça donne? Ouais, on était en live, je pense, d'une autre plateforme, mais ça laguait beaucoup. Donc, on sera Facebook Live pour ce qui est de ce soir. Donc, on s'installe tranquillement. Le temps de saluer nos commanditaires. Je salue Habitat Boréal. C'est le fun, Habitat Boréal, cette semaine, a partagé toutes mes photos. C'est vrai, ça. Ouais, de notre petit périple dans le chalet du pêcheur, bien sûr, Habitat Boréal. C'est plusieurs offres d'habitation, des chalets, mini-chalets que vous retrouvez en Mauricie, non loin de Latuc. C'est toujours des beaux spots. Vous êtes bien installés. Faut aller les suivre sur Facebook, Instagram. Ils sont là. Habitat Boréal, vous les cherchez sur Google. Vous allez retrouver bien certainement leur site web et vous allez voir leur offre de chalets qui sont toujours très accueillants, super le fun. Donc, on les salue. Également, microbrasserie Opéra. Hein? On est lundi, Saint-Patrick. Mais tu sais, nous autres, le lundi, on prend un verre pareil, là, Saint-Patrick ou pas. On est allé avec une Kölsch cette fois-ci. Je vais aller chercher, je vais essayer de ne pas faire de dégâts. Ce serait quand même pas pire. Comment qu'ils l'ont appelé celle-là? Pète pas ta Kölsch.
Typiquement jeu de mots de l'opéra.
Ah, exactement, où un houblon est fâché. Kölsch, qui est, si je ne me trompe pas, un style allemand, qui est une bière légère, un beau petit 4%, toujours le fun, brassé à la microbrasserie Opéra La Chope. Donc, La Chope qui se retrouve dans le quartier industriel de Honquière. Sinon, ben, Saint-Dominique, bien sûr, pour ce qui est de la pizzeria, microbrasserie pizzeria Opéra, que vous pouvez retrouver sur la Saint-Dominique, toujours un endroit très accueillant. Je salue William Bilodeau qui vient de se joindre à nous. Maxime également qui disait entrer en matière à la dure pour les nouveaux pilotes. Bien sûr qu'on va en jaser. Anthony, salut Buddy. Donc, on va jaser, oui, de ce premier Grand Prix, les nouveaux pilotes. On va chialer encore une fois sur Helmut Marko, ça c'est sûr et certain. On va analyser un peu tout ça, puis on va jaser ensemble de ce premier Grand Prix de la saison. Bien content d'être de retour pour un troisième épisode déjà cette saison. Il y aura un quatrième de suite la semaine prochaine. D'ailleurs, si vous avez manqué celui de la semaine dernière, c'est disponible en rattrapage. On a jasé avec Christine Laramé, qui est auteur, qui fait deux romances avec comme un bon fond la F1. Ouais, elle s'est inspirée du monde de la F1, ça s'appelle « Dernier virage ». On a jasé de sa passion pour l'écriture, mais aussi de sa passion pour la Formule 1, donc disponible sur les Spotify, Apple. On est-tu encore sur Deezer, Jean-Mich?
Écoute, oui, puis on a des bonnes stats pour l'épisode avec Christine. Écoute, 81 écoutes quand même depuis notre live la semaine passée, fait que c'est quand même excellent de ce côté-là. Puis oui, on est encore sur des plateformes un peu obscures. Peut-être qu'on fera un peu de ménage cette année.
On se dit tout le temps ça.
Ça vaut la peine d'être partout. Mais...
Regarde, Deezer, on les aime, Asti, fait qu'on est là. Fait que, ouais, également, c'est disponible sur notre page Facebook, le podcast Le Paddock. Je vais prendre une petite gorgée parce que je vais tout renverser sérieusement. Là. J'ai un peu le cerveau fucked up à soir.
C'est correct. C'est toujours... on se prend pas au sérieux. De tout
exactement. Donc, commençons par jaser des vraies affaires. Puis oui, elle est bonne. Qu'elle est bonne. Kevin devrait peut-être aussi travailler sur les jeux de mots de l'opéra. Je pense qu'il s'entendrait très bien avec l'ami Vlad, tout ça, pour ce genre de jeu de mots. J'ai goût d'avoir tes impressions en fin de semaine. Es-tu content de ce début de saison assez chaotique?
Ben oui et non, je te dirais, j'aurais peut-être aimé ça qu'on commence un petit peu plus straight, là, tu sais, une bonne vieille course à l'ancienne, qui est quand même, il fait beau, puis qu'on n'a pas de pluie, donc on aurait peut-être une meilleure représentation de la hiérarchie, je pense, qui est en place, mais c'est pas grave, la pluie, ça apporte toujours son lot de surprises. Pour le spectateur, honnêtement, moi, je trouve ça des fois plus plate un petit peu, quoique j'ai été surpris en Australie. Je m'attendais à plein de red flags, finalement. On faisait comme juste le safety car, puis on ramassait des gars. Je pense qu'on devrait peut-être apprendre certaines leçons de l'Australie pour d'autres Grands Prix, parce que des fois, les red flags, ça peut tirer une course solidement, mais c'est ça, je suis mitigé un peu, je pense. Je vais résumer ça comme ça pour la fin de semaine. C'est ça, j'aurais aimé ça, une bonne course sur le sec, mais pour l'action, c'est sûr que ça n'a pas manqué, mais... C'est mon point de vue.
Moi, sérieusement, je capotais. J'étais comme, ben, je comprends ton point de vue du genre, ça aurait été pas pire que ça se déroule dans la tranquillité un petit peu. Cependant, écoute, les revirements, tout ça, j'ai adoré. Là, c'était un million de twists. Là, ça n'avait pas de maudit bon sens. Je vous rappelle que Lando Norris a gagné devant Max Verstappen. George Russell a fini troisième. Écoute, Kimi Antonelli a terminé quatrième. Albon, 5e, Lance Stroll 6e, Hülkenberg 7e, Leclerc, Piastri et Hamilton ont complété le top 10. Donc, pour les petits résultats rapido comme ça, même si je sais que vous avez suivi, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien quand on revient un peu sur ce top 10. Ouais, c'est sûr et certain que McLaren aurait dominé outrageusement, je pense, en fin de semaine, si ça n'avait pas été de la température. Même à ça, c'est là qu'on a vu que Max Verstappen, sur une voiture, quand il pleut, il est excellent. J'ai le goût de te dire que Lance Stroll aussi, hein, ses meilleures performances des dernières années, ça a pas mal été sous la pluie. 6e position pour lui, gars, on va le prendre pour décoller la saison. Là, je sais qu'il y a une gang qui vont faire comment, parle-nous pas de Lance s'asseoir pour les fois qu'il en fait une bonne. Je suis content pour lui. Je suis content qu'il décolle la saison comme ça. Un petit peu plate pour Fernando Alonso, que bon, ça s'est terminé dans le mur. Ça a été extrêmement difficile. Je sais que du côté d'RDS, on avait parlé peut-être un petit peu du... pas d'une injustice, mais est-ce qu'on aurait pu faire rouler un peu plus les rookies pour les habituer un petit peu plus? Parce qu'à part Antonelli, ça a été un carnage pour eux en fin de semaine. Non, on va commencer avec eux. Je pense que ça a été le sujet de conversation. Écoute, le pauvre Adjar, le pauvre gars, n'a même pas pu commencer sa course. J'étais tellement déçu pour lui.
Ben, c'est choquant parce qu'écoute, il s'est quand même qualifié 11e, puis il s'est rendu à Q2, tu sais, quand même, pour son premier Grand Prix. Puis avoir les performances de Tsunoda aussi, c'est le fun de noter que les Racing Bulls semblent quand même en forme dans ce début de saison. Oui. Donc, c'est super le fun de voir ça. Puis, c'est ça, Adjar, écoute, ça. Le chaos a commencé là un peu, je pense. Ça a comme été le premier d'une série qui n'arrêtait plus. Mais c'est ça, pauvre lui. Puis on voit vraiment que ben, t'sais, les pilotes, c'est des humains, hein, malgré tout. Hein. Des fois, on pense que c'est des machines sans aucune émotion et tout. Mais t'sais, surtout, le kid, c'est sa première chance. C'est, vous m'avez fait confiance. Là, c'est là que ça se passe. Je vais faire partir ma première course. Puis c'est une erreur bête, mais par contre, ce qui est rassurant, c'est que c'est arrivé à d'autres aussi, à des vétérans comme Carlos Sainz. Mais Sainz, on semble dire que... Puis James Vowles mentionnait qu'on va chercher à étudier ça un petit peu plus parce que ça aurait arrivé dans un changement de rapport où est-ce que là, il y avait plus de motricité qui était supposée de n'avoir. Donc, pour lui, pour un pilote habitué comme ça, ça serait peut-être plus une question de puissance moteur ou de je sais pas quoi, mais le pauvre Adjar, écoute, je pense qu'on était tous tristes pour lui en plus, hein, mauvaise première impression, puis quand le papa d'Hamilton est arrivé là, c'était comme ok, wow, c'est surréel qu'est-ce qui est en train de se passer.
Oui, puis on sait que Adjar, son idole, c'était Lewis, puis tout ça, puis il jasait beaucoup avec, ils ont pris des selfies ensemble, puis tu sais, j'écoutais le père d'Hamilton jaser justement. Puis tu sais, c'est de beaux humains. Tu sais, puis je voyais beaucoup de trucs sur... Tu sais, on suit la F1, là. Fait que quand on se promène sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok ou Instagram, on a beaucoup de trucs dans nos algorithmes. Puis tu sais, il disait, dans un monde rempli de Jos Verstappen puis de Helmut Marko qui critique, qui fait ce qui... Tu sais, soyez donc un papa de Hamilton. Tu sais, ce monsieur-là... est allé voir le kid en disant hey, garde la tête haute, puis tout ça. Puis, écoute, ça a été de superbes images. Et c'est là qu'on voit qu'un vieux sénile comme Helmut Marko n'a plus sa place. Il est allé dire, peut-être pour les gens qui n'ont pas suivi, que c'était du overacting, qu'il n'avait pas d'affaires à pleurer, que c'était embarrassant, tu sais, en anglais, dit embarrassing, là, de voir cette surréaction, si je traduis. J'ai trouvé ça colon. Inutile. Et quand on dit des fois que cet environnement-là de Red Bull est toxique, on vient de le vivre encore une fois avec un vieux monsieur qui sert à sweet fuck out.
Oui, mais je n'ai pas le choix d'être à la même place que toi. Je pense que beaucoup de gens vont probablement être d'accord avec ça aussi. C'est tellement des pensées rétrograde.
Mon Dieu!
C'est drôle, tu sais, qu'on parle d'Helmut Marko parce que j'ai terminé hier Drive to Survive, puis il y en a un autre qui est un enfoiré aussi, c'est Flavio Briatore, on va se dire. Là, c'est, tu sais, un vieux de la vieille, il a l'air d'un vieux Gilbert Rozon, mais en pire, là,
ouais.
C'est honnêtement, c'est ça, là, tu sais, c'est vieux de la vieille garde, ces vieux monsieur là, tu sais, c'est laisser votre place, genre, à la nouvelle génération, restez ancrés avec vos vieilles mentalités. Là. Mais puis on a déjà vu d'autres, là, des grands pilotes là, qui ont fondu en larmes aussi parce qu'il était arrivé certaines choses. Tu sais, c'est des gars qui sont émotifs. Puis en plus, lui, c'était une première. Mais c'est pas grave hein, parce qu'après ça, on l'a vu, il est venu sur le mur des stands, il est allé rejoindre son monde un peu. Un peu comme Carlos Sainz qui s'est déguisé en ingénieur de piste. Ça, c'était très cool, cette petite parenthèse-là. Puis semble-t-il que c'est grâce à ça que les bons conseils de Sainz dans la stratégie de on passe-tu au pneu sec ou non, qui fait qu'ils ont rentré au bon moment, puis Albon a pu finir à une belle position comme ça. Fait que des fois, tu sais, un mal pour un bien, si on peut dire, mais pour Williams aussi, ça a bien starté la saison. Mais pour boucler la boucle, effectivement, Helmut Marko, ça fait très longtemps qu'on dit que ce monsieur-là devrait plus être là. Puis écoute, c'est peut-être pour ça qu'il a scrappé Pierre Gasly, Alex Albon, Daniel, tu sais, tous les
ben gens là,
qui
ils
sont passés par là, qui se sont cassés les dents. Là.
Ils s'enlignent pour en scraper un autre. Là. S'il commence comme ça, à mettre... Je comprends là, que, je veux dire, il y a 20 places, puis il faut qu'il y ait de la pression, puis tout ça, puis je comprends tout ça. Mais c'est vrai que des Helmut puis des Fabio, écoute, ça a aucun rapport. Puis tu sais, tu t'as mentionné Drive to Survive, dans l'épisode où on voit que c'est la fin pour Daniel Ricciardo, Helmut, il dit « Ah, ce serait juste bon pour Netflix, puis ça, puis il est nargue. » Là, il sait que Netflix, il est en train de l'écouter. Là. Voyons donc, là, tu sais, puis Daniel Ricciardo, vous a rien fait, les garçons. OK, c'est vrai que ses performances avec Racing Bulls n'étaient pas incroyables, mais on a vu que le karma a vite rattrapé Red Bull Racing quand ils ont terminé troisième au championnat des constructeurs parce qu'ils n'ont pas agi quand Checo faisait absolument rien. Je ne peux pas croire encore aujourd'hui que Ricciardo n'aurait pas été meilleur que Checo. À la limite, il aurait ramené la F1. Tu sais, je veux dire, il l'aurait ramené à un seul morceau. C'est vrai que Verstappen a pris cette écurie-là sur ses épaules, mais je te dirais que des vieilles affaires de même, là, on ne veut plus voir ça, puis on a évolué. Puis comme je te dis, je comprends qu'il y a de la pression, puis on voit, c'est Ayo Komatsu, c'est ça qui s'appelle celui chez Haas. Peut-être qu'on pourra me corriger sur
la prononciation.
Je pense que c'est un Komatsu, si je ne me trompe pas.
Oui, effectivement, comme les pelles mécaniques et le commanditaire de William.
Ben, ils sont... Oui, ils sont ça encore. En tout cas, je pense qu'ils ont changé de main. C'est là, mais...
Ayao Komatsu.
Bon, ouais, on le voit justement parler à Berman, puis tout ça, puis dire, regarde, c'est correct t'apprends de ça, m'en refais-moi, puis ça. Puis c'est correct, tu sais, des fois, il faut se faire parler dans le casque, puis ça. Puis
ben oui.
Écoute, je suis de la génération aussi que je suis un peu entre les deux, là, tu sais. Parle-moi dans le casque, mais comprends quand je file pas. La jeune génération qu'on a là, écoute, c'est un kid, là, c'est un enfant. V'là une couple d'années, là, je veux dire, on voit des photos de lui, v'là 10 ans, puis je veux dire, c'est un bébé, là, tu sais, je veux dire. Le gars, il rêve de ça, il met ses pneus à mauvaise place, sac un coup de gaz, merci, bonsoir, fini dans le mur. Il y a déjà assez de peine, pourquoi un vieux monsieur complètement inutile va lancer ce genre d'allégation-là, honnêtement, je peux pas comprendre. Je peux pas comprendre dans un monde où, en plus, la F1, parce que souvent, ils vont pas faire ça aux médias britanniques, là, mais ils vont le faire sur un autre média. Là. Tout le monde le sait. Là. Arrête. Là. Arrête-moi ça. Là.
Non, c'est plate. Puis, en même temps, la nouvelle est sortie, puis on a comme fait, bon, est-ce qu'on est surpris de lire des déclarations comme ça? À un moment donné, je pense qu'on... On passe par-dessus ça, on les regarde même plus. Là. On le sait que qu'est-ce qu'il va dire, ça va être une connerie. Là. Fait que je pense que rendu là, c'est mieux de passer à autre chose. Puis heureusement, ben, Adjar est entouré de gens de beaucoup plus de qualité que ce crétin-là. Fait que je suis convaincu que même Christian Horner, après la course, il a dû l'appeler, il a dû aller le voir aussi. La même chose qu'il a faite pour défendre Liam Lawson. T'sais. C'est normal qu'on commence. Puis des fois, c'est un peu plus nerveux. C'était une première pour bien du monde aussi en fin de
ben
semaine.
Oui.
Hein, fait que c'est ça.
Écoute, des rookies, il est resté Berman qui a eu une fin de semaine difficile sur le sec, mais en tout cas, il l'a ramené à la maison. Puis Antonelli qui a surpris, qui est parti 16e, qui a terminé 4e. Je te dirais là, que à part ça, là, les rookies, ça a été extrêmement expéditif. Écoute, Jack Doohan n'a pas fait un tour. Bortoletto en a fait 45, c'est pas trop pire. Puis, tu sais, Lawson en a fait 46. Là. Puis, tu sais, Berman a resté sur le tour du leader à 40 secondes parce qu'il y a eu une tonne de safety car. Donc, tu sais, à part Antonelli qui a vachement bien fait ça, là, j'ai comme l'impression que c'est le seul. Puis le reste, ça a été difficile. Donc, ouais.
Il a bien pas fait sûr. Ça, puis il est parti loin. Imagine
oui.
S'il n'y aurait pas eu de problème avec la voiture en qualif. Mm-hmm. Certains qui allaient en Q3, puis moi, je commence à être bien allumé pour le jeune Antonelli de le voir justement courir dans une course, dans des conditions qui vont être un petit peu plus normales. Puis en plus, il y avait une explication aussi à sa mauvaise qualification, fait que j'aurais bien aimé ça voir s'il aurait pu partir dans le top 10, qu'est-ce que ça aurait pu donner? Peut-être même qu'il aurait pu terminer devant Russell. On ne sait pas qu'est-ce qui aurait pu se passer parce que, tu sais, veut pas. Je pense qu'ils ont terminé à quoi? À peu près 2 secondes l'un de l'autre. Mm-hmm. Fait que, il aurait peut-être pu avoir bien des choses qui se sont passées, mais dans des conditions aussi bordéliques, c'est le fun de voir que ce jeune-là a un bon coup de volant, une bonne assurance, puis il a ramené la voiture. Je pense qu'à la fin de cette course-là, le plus important pour tout le monde, c'était de ramener la voiture. À part peut-être oui. Norris puis Verstappen, tu sais qu'eux, ils ont des ambitions de championnat, mais pour les autres, puis comme tu parlais tout à l'heure dans Drive to Survive, on le voit, tu sais, quand on parlait à Bearman, rapporte la voiture. On veut juste que tu rapportes la voiture parce que sinon, ben, c'est des millions que ça peut coûter en réparation et tout. Fait que je pense que ça, c'est une mission accomplie. Puis Toto semble avoir été bien impressionné aussi
oui.
de son jeune prodige. Fait que, en tout cas, du moins, pour le moment, on peut voir qu'il y a un certain talent pour lui sous la pluie. Fait que ça commence très bien. Donc, il faudra juste voir dans des conditions plus normales
oui.
ce que ça va donner. Mais je pense que ça peut juste être mieux.
Oui, c'est sûr et certain qu'il faut être patient, tandis que Kevin nous dit que c'est le deuxième pilote le plus jeune de l'histoire inscrit. Ouais,
derrière. Et devant Lance Stroll, quand même.
Oui,
Canada
c'est vrai.
2017, j'avais justement sorti la statistique. Puis le top 5, c'est quand même des pilotes qui courent tout en ce moment. Verstappen, Antonelli, Lance Stroll, Bearman, puis Lando Norris.
Wow! Donc,
écoute, après ça, là. Non, moi, c'est l'aide Daniel Kvyat, mais on va s'arrêter là. Donc, mais quand même, dans les 5 pilotes qui courent encore, là-dedans, c'est les 5 plus jeunes qui ont inscrit des points en Formule 1. Donc, c'est quand
très
même...
Cool.
Ça prouve que maintenant, les nouveaux pilotes commencent de plus en plus jeunes.
Oui, de plus en plus jeune, mais en tout cas, au moins, on les fait commencer à 18 ans.
17 ans, Verstappen. Ah, 17 ans, 5 mois et 29 jours.
Ça n'a pas de sens, écoute.
Un... Fait que, mais aujourd'hui, ça fait 10 ans que Max est en F1. Comme quoi, ça passe très vite.
Ça passe extrêmement vite, oui. En effet, écoute, 4 championnats du monde pour Max Verstappen qui a été encore, solide en fin de semaine. Ah, je pense que la Red Bull n'est pas là. Je pense pas que la Red Bull
est capable de l'amener quand même à un saison, niveau. Mais... Même en qualif, hein, là, on voyait les secteurs, les purple arriver. Ah, il va nous sortir quelque chose, le maudit. Il est incroyable. Il compense les lacunes de la voiture.
On a des chances d'avoir un beau championnat. Malheureusement, ça s'est mal fini pour Piastri, parce que Lando Norris a connu une superbe course, est resté concentré, j'ai trouvé très, très bon, malgré une sévère sortie de piste vers la fin du Grand Prix, qui aurait pu être très coûteuse. Ça a été coûteux pour Piastri, qui s'est ramassé dans le gazon, qui finalement a réussi à reculer puis dire hey, « Regarde, moi, je veux finir mon Grand Prix. » Il a quand même terminé dans les points. Malgré tout, tu sais, je l'ai trouvé, j'ai trouvé cependant Piastri, il manque une petite gauche en qualification, mais il est intéressant en course. Là,
le dépassement sur Hamilton, par l'extérieur, s'il vous plaît, dans ce virage-là que normalement tu dépasses pas vraiment.
Non, sous la pluie.
Pour vrai, là, je suis convaincu que... pas été de ça, il gagnait. Il était plus rapide. À un moment donné, il chauffait Norris, il collait. Là, il attendait juste les instructions de l'équipe pour dire « passe-les ». Puis à un moment donné, on leur a mentionné « garder les positions ». Puis je pense, 3 tours après, là, c'était rendu « ben, tu sais, vous connaissez les règles ». Mais moi, je suis convaincu.
Je suis convaincu qu'il aurait pu...
Pas de ça, honnêtement, il passait. Il avait le couteau entre les dents. Il était rapide comme ça, se peut pas en course. Je suis sûr qu'il aurait gagné.
Je pense que oui. Écoute, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner sur le sec Chine, hein, dans un circuit peut-être un petit peu plus conventionnel. Il y a certains endroits un peu moins, mais je te dirais que c'est un circuit qui semble être assez intéressant. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va produire comme course, à moins qu'il pleut encore. Mais l'Australie, j'écoutais, c'est un pilote français. Écoute, je ne pourrais pas te nommer son nom. Je le vois passer des fois dans mon feed, cours des fois dans certaines séries, en Porsche notamment. Puis,
beaucoup, là, c'est-tu lui? C'est
ça, il y a une casquette à l'envers. Puis,
il dit toujours, maintenant, il pose une question, puis il dit, j'ai pas compris, c'est-tu lui que tu parles?
Ah, peut-être, ouais.
Parce qu'il y en a un qui court, je pense, en GT pour Porsche, là.
Ben, puis, ça souvent, se peut.
Il répond à des questions sur...
Oui, ben, et je pense que c'est lui, une petite casquette à l'envers, une belle gueule, c'est un Français.
Ouais, je pense que c'est lui, vraiment cool, son channel.
Puis il mentionnait, c'était vraiment, vraiment intéressant parce que c'est quelque chose que personne n'avait apporté sur les broadcasts que j'ai écoutés du moins. Étant donné que c'est un circuit urbain, la fameuse peinture qu'on voit, puis on la voit un peu en arrière de moi pour ceux-là qui sont sur le live, là, les fameuses lignes blanches que vous avez vues en fin de semaine.
On le voit derrière toi, le logo du vélo par terre.
quand il pleut, ça devient extrêmement glissant. Et il analysait Adjar et un autre sortie de piste, et c'était exactement la même chose.
Un petit coup d'accélérateur sur la peinture, c'est ça. Terminé. Hein.
Est-ce que c'est ça à 100%? Je ne pourrais dire. Mais est-ce que c'est une bonne hypothèse? Par contre, ça en est une très, très bonne.
Excellent. Honnêtement, là, je suis d'accord avec ça, parce que souvent, on pense juste aux lignes qui délimitent le circuit, mais là, c'est vrai que dans ce cas-là, tu as raison, c'est vraiment c'est de la peinture. Hein? Puis, ça n'a pas été recouvert. Peut-être que pour les prochaines éditions du Grand Prix, on pourrait peut-être penser à cacher, recouvrir ça, mais ça sera quelque chose à vérifier, mais je trouve que la théorie est excellente et très plausible, même quand on prend juste 2 minutes pour l'analyser.
Oui, très, 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 très plausible. Honnêtement, c'était pas pire. J'ai vu d'autres choses aussi, notamment pour le crash d'Alonso. Ils ont allongé la partie de gravel. Là. C'était peut-être pas les meilleures idées, finalement.
Ben dans le virage, c'est le virage 6 que tout le monde passait tout droit et qui ramenait. Puis, semble-t-il que l'année passée, il y avait une bande d'asphalte qu'ils ont enlevé. Je pense que c'était une très mauvaise idée, là, parce qu'écoute, il y a l'équivalent d'un 10 roues de 0,75 d'après moi, dans toute la fin de semaine, qui s'est retrouvé sur la piste. Tout le monde passait tout droit là, puis c'est comme une ligne de course naturelle. Mm-hmm. Je pense qu'ils vont peut-être être obligés de revoir ça. Puis dans ce virage-là, il y a le muret qui a été reculé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année passée, c'est là que Russell s'est viré puis que ça devenait dangereux. Fait que ça, on a procédé un petit correctif. Mais le truc d'enlever la bande d'asphalte, ça, c'était vraiment pas une bonne décision.
Ouais, oh ouais. Donc, de ce côté-là, ça a été plus... Ça a été plus difficile un petit peu. On a eu un red flag, notamment dans la première séance d'essai de la fin de semaine, en raison du gravier, tout ça. Donc, est-ce que le gravier que Gasly a projeté sur l'espèce de ligne de course a amené Alonso dans le muret? Écoute, peut-être aussi. On a quand même quelques petites explications. Tu le disais aussi pour Sainz. Est-ce que c'est un truc de torque, je crois? Puis, dans sa déclaration sur Instagram, il avait mentionné... c'est une erreur, mais on la comprend. Donc, si on la comprend, c'était comme mieux pour lui. Là, je ne sais pas trop. Il avait l'air à dire, j'ai fait une erreur, mais on la comprend. Donc, on peut avancer. Je le paraphrase beaucoup. Là, mais,
je pense que c'est pas mal l'explication qu'il donnait. Il y a un côté technique avec ça aussi. Fait que, il y a peut-être une programmation de moteur qui n'a pas fonctionné comme il faut parce que j'imagine que dans des conditions comme ça, ben, on doit modifier les paramètres de la puissance du moteur aussi parce que sinon, ça n'aurait aucun bon sens. Là. Puis ce que j'ai aimé, c'est que Patrick Carpentier faisait un commentaire intéressant puis en disant, tu sais, des fois, il y a des gens qui pensent que piloter une voiture de F1, c'est facile et tout, mais c'est là que tu vois que c'est tellement... Tu sais, parce que les jeunes qui sont là, ils ont mérité leur place. Là. Tu vois que c'est tellement... pointu à piloter comme voiture. C'est tellement puissant aussi. Tu sais, veux pas, c'est des voitures avec des petites cylindrées, des turbocompresseurs, des moteurs électriques là-dedans. Fait que, tu sais, il y a une puissance phénoménale qui est derrière ça. Fait qu'il faut que tu sois capable de le gauger comme il faut. Fait que je pense qu'on a vu au premier Grand Prix que ça peut causer certaines surprises quand on n'est pas dans des conditions optimales. Puis comme tu l'as dit, bien, malheureusement, on ne peut pas simuler ça en essai dans les tests hivernaux, là, à moins que la FIA déciderait de faire une journée, ou Pirelli déciderait peut-être de faire une journée pour ça. Mais écoute, peut-être l'an prochain, je sais que pour les voitures 2026, on va au moins doubler le nombre de jours d'essai parce que c'est une nouvelle réglementation. Mm-hmm. Qui sait, peut-être qu'il y en aura une par Pirelli qui sera réservée à ce genre de test-là. Mais pour le moment, il y en a quelques-uns qui se sont cassés les dents, comme on peut dire. Puis le pauvre Jack Doohan qui voit l'épée de Franco au-dessus de lui. Là, que, puis Flavio aussi, le petit poignard dans le dos. Là.
Écoute, il gère chacun, chaque millimètre
de sa vie, quasiment. Il était assez intense dans ses propos. Comment un café? Dégueulasse.
Ouais. On ne sait pas trop pourquoi il est rendu pas de cheveux. Là. T'as-tu suivi cette histoire-là?
Ben écoute, moi, au début, je pensais que Flavio, c'était un Lou Lamoriello. Là. Pierre Gasly et Doohan arrivent avec la coupe militaire, mon ami. Je sais pas... Je sais pas, honnêtement, là, puis moi, j'ai juste vu un lien avec Flavio Briatore, puis j'ai dit, bon, ça doit être un vieux rétrograde comme Lou Lamoriello. Là.
Ouais, c'est ça.
Je sais pas, c'est le seul lien que j'ai pu voir, là, parce que c'est des gars qui avaient quand même une bonne chevelure. Là.
Ben oui, ben peut-être que c'est pour mieux fitter dans le casque, je sais
peut-être
pas.
Peut-être sauver 2-3 grammes, écoute, je sais pas.
Parce que, en tout cas, on va faire une très courte chronique capillaire. Jamais mieux ses autres cheveux. Voilà, c'est dit. Donc, c'est peut-être pas le plus gros commentaire de la soirée, on va se le dire.
Écoute, tous les commentaires sont bons. On les prend tout.
Que pensez-vous de la coupe? On va jaser un petit peu de Ferrari. Vous aurez remarqué ce soir l'absence de Paulo Ferrari autour de ce podcast. Ça a été une fin de semaine pas nécessairement facile pour la Scuderia, surtout que, bon, Lewis, je ne m'attendais pas à grand-chose, puis, tu sais, il fallait être honnête, là, on va lui donner un temps d'adaptation, là, donner-y une coupe de course, puis, tu sais, la saison est longue. Là.
Ah oui.
Charles, j'avais quand même un bon espoir pour la qualif, honnêtement, parce que je l'avais trouvé bon dans les essais, je le trouvais rapide, je pensais que Ferrari tenait un petit quelque chose, je le voyais même sur le podium Charles Leclerc au début du week-end. Avant de nous faire une qualif un peu de boîte, là, écoute, et Albon et le grand pote Tsunoda, qui a connu toute une qualif en fin de semaine, étaient devant Charles Leclerc. Écoute, tu décolles 7 et 8, tu finis 9 et 10. Est-ce qu'on peut parler d'une opération ratée pour Ferrari en entrée de scène?
Ben, je pense que oui. Fred Vasseur l'a dit aussi, on s'est trompé. Premièrement, juste en qualification, qualifié à, ben, je prends Leclerc et Hamilton, à 7 et à 9 dixièmes, presque une seconde de plus pour Hamilton, en fait, là, de la pole de Lando Norris. Je pense que c'est... ça fesse, comme on dit en bon québécois, quand t'as un hype qui était élevé, là, quand même, depuis le dévoilement de la voiture. Ben, c'est sûr que du côté du marketing de Ferrari, on a monté ça beaucoup aussi avec l'arrivée de Lewis. Fait que, peut-être que les gens étaient un petit peu trop crinqués, mais on s'attardait peut-être plus à ça plutôt qu'aux performances de la voiture. Là. Parce que c'est sûr que quand on a fait les essais aussi, on a quand même eu quelques bons flashs. Mais pour la course, quand on a vu que Hamilton et Leclerc n'ont pas rentré au bon moment, c'était terminé. Ouais. On a raté les puits, puis on a décidé de rester une couple de tours de trop avec les slicks, puis c'était terminé, malheureusement. Je pense que c'est là qu'on s'est planté. On aurait pu peut-être finir un petit peu en avant, parce qu'écoute, si on regarde au niveau... on a fini quand même Leclerc à 2 secondes de Hülkenberg, puis Hamilton a terminé à 2 secondes de Leclerc. Fait que, tu sais... Si on aurait eu un arrêt au puits convenable, je suis convaincu qu'on aurait peut-être pu aller chercher au moins 2-3 positions de plus pour chacun des pilotes, là, parce qu'il y a énormément de temps qui s'est perdu là. Mais c'est ça, ils se sont plantés. Fait que rendez-vous à la prochaine course pour la Scuderia. Mais chose certaine, ça part pas très bien pour le championnat. Je sais que c'est juste une course, mais c'est à la fin de la saison, il manque 10 points. Ben, on va le savoir, il était... C'est un peu comme l'année passée avec Norris et... Piastri, là, quand on avait décidé de refaire passer Piastri, moi, en Hongrie, moi, je me souviens encore de ça tout le temps. À chaque fois que je repense à Norris, là, je me suis dit, écoute, peut-être qu'à ces points-là, aurait changé quelque chose à la fin. On le sait pas.
On le sait pas.
Mais on le saura jamais non plus, mais c'est ça. Pour ma part, c'était un départ un peu pouette-pouette, là, comme tu dis. Puis Leclerc, un gars qui est habitué et tout avec l'équipe, je l'aurais vu mieux performer que ça. Puis Lewis, bon, on a vu que c'était de l'apprentissage aussi avec son ingénieur. Ben, c'est sûr qu'on nous envoyait bien les communications qu'on voulait nous envoyer, mais tu sais, on dirait qu'il était comme... Ben, tu parlais de son père qui était respectueux puis une bonne personne. Écoute, il arrêtait pas... Il parlait à son ingénieur en disant « please » à la fin, tu sais.
Oui, c'est ça. Je pense qu'il est bien élevé. Ouais, parce que, il était là, OK, stop, leave it to me, please.
Ouais,
stop, repeat. Oh, ouais, c'est ça.
OK, puis, tu peux prendre le mode électrique pour dépasser. Oui, je le sais, mais je suis pas assez proche. Genre. Laisse-moi faire.
C'est ça. Plus que toi, on a dit qu'on allait quand même régler un petit peu fort, possiblement qu'ils vont s'en refaire un petit meeting. Puis c'est vrai que chez Ferrari, c'est
ça commence.
Mode 1.
Nouvelle ingénieur, nouvelle structure. Puis comme il a dit, juste conduire la voiture, il a fallu qu'ils disent à Toto d'envoyer les plans du volant Mercedes pour qu'il soit à l'aise, pour que la mémoire musculaire puisse se faire avec tout ce qui était habitué. Là. Fait que, c'est sûr.
Oui, c'est un apprentissage, ça c'est sûr. Ça c'est sûr.
Il faut s'y en attendre.
Bon, il y a aussi Mosby the Water. Là. Écoute, ça a été le mime de la fin de semaine là, parce que Charles Leclerc dit, écoute, je pense que j'ai un leak, je pense qu'il y a quelque chose qui coule quelque part. Fait que là, tu sais, on lui demande pourquoi. Il dit, ouais, mon siège est complètement plein d'eau. L'ingénieur dit, ça doit être l'eau. Tu sais, même pas, c'est en raison de la pluie, là. Tu sais, c'est fort possiblement que c'est la pluie ou que genre, must be the water.
C'est juste drôle.
Mais tu sais, je me mets à leur place, par contre. Tu sais, ils sont là, le puzzle qui reçoit des communications radio, puis ils doivent faire comme,
ah oui.
Si tu veux, je fasse avec ça. Mais ouais, ça reste un petit peu dans le folklore de Ferrari. Je pense que les communications radio, là, ce sera fort possiblement à travailler parce qu'on voyait là, que Lewis était comme là, écoute, Christian a dit ah, c'était parfait. Il a dit ça va aller dans les mots de sagesse, Word of Wisdom, si je me trompe.
Ouais, effectivement, c'était quand même très drôle.
C'était quand même très drôle. Donc, Charles a une bonne répartie, là, on le voit très bien, mais en effet, je pense que côté communication, ce sera amélioré. Je ne peux pas les blâmer. Je pense qu'on a essayé, un grand chelem, peut-être un petit peu tôt dans la saison quand même, mais il y a des choses qui vont se rattraper. Là, entre toi et moi, là, on s'entend là, que Kick Sauber ne restera pas 6e, puis Aston Martin peut-être les viser pour la 5e position, là, mais à part ça... Là, écoute, Ferrari va remonter. Ferrari va prendre une place entre pas loin de Red Bull, puis Mercedes, puis peut-être que certaines courses pas loin de McLaren, puis même Mercedes va sûrement être recalé un petit peu. Là. C'est une première course, et en plus de ça, il n'y a plus. Donc, je suis quand même assez confiant que Ferrari va se replacer, mais vous puis moi, si on voulait une belle entrée en scène, oui, ça s'est pas fait.
Ben, c'est pas inquiétant. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il y a des écuries qui ont un Grand Prix ont quasiment mieux performé que dans toute la saison passée. Fait que tu sais, veux pas, déjà pour Sauber, ben c'est déjà peut-être des sous en banque. Là, fort probablement que c'est peut-être pas loin des seuls points qu'ils vont faire cette année, mais on sait que tu sais, plus les années changent, puis plus la pluie, puis des affaires comme le Brésil l'année passée, on commence à en avoir de plus en plus. Fait que il peut peut-être arriver d'autres aussi, des Grands Prix comme ça cette année. Puis tu sais, l'année passée, Alpine avait fini 2-3 parce qu'il y avait eu des conditions comme ça. Fait que ça peut causer des surprises, puis ça leur avait permis d'aller chercher des points précieux aussi pour finir plus haut au championnat. Puis on le disait, je pense, c'était comme 10 millions de plus pour... la position qui
est. Écoute, c'est des millions de dollars, mais tu sais, pour paraphraser un peu Drive to Survive, t'en as qui disaient 50, t'en as qui disaient 30, puis t'en as qui disaient 10. Fait que, on va dire des millions.
Entre la 6 puis la 7, c'était comme quelque chose comme 10 millions de différence, ou quelque chose comme ça. Fait que, tu sais, pour une petite structure comme ça, ben, je dis petite, ils sont quand même backés par le groupe Volkswagen, qui sont presque ou encore le plus gros constructeur au monde. Donc ça
qui ont annoncé des coupes, d'ailleurs, aujourd'hui, jusqu'en 2029.
Ouais, ça...
C'est cette partie-là
qui m'inquiète un peu plus. Là,
oui, moi aussi.
Tu veux couper des milliards dans ta restructuration, licencier des milliers d'employés et tout, puis tu sais, tu gardes comme ton programme sportif actif comme ça, fait que... Puis ça fait longtemps qu'on le dit, on le sent pas, Audi.
Et que je le sens pas, honnêtement. En tout cas, moi, l'année prochaine, il va y avoir deux nouveaux là, avec Audi et Cadillac. Hein.
Ouais.
Très, très hâte de voir, mais il ne va pas falloir qu'Audi se fasse damer le pion par la nouvelle écurie qui rentre, parce que ce sera un fail total. Il y a des gens qui nous ont parlé un petit peu de Williams aussi dans les commentaires un petit peu plus tôt, malgré qu'on était déçus là, justement que Sainz termine dans le mur. J'ai l'impression qu'ils seront en forme, en tout cas, du moins pour ce début de saison. Williams semblait bien performer, du moins on a vu ça dans la première séance d'essai. On l'a vu dans les essais hivernaux ou essais pré-saison, prenez-les comme vous voulez. J'ai comme l'impression que Williams sera une belle écurie à suivre, puis qu'elle va être le fun à suivre cette saison. C'est sûr et certain qu'on amène Carlos Sainz, qui était un, je pense, des favoris des amateurs de F1, là, un gars qui est toujours le fun. On aime bien le smooth operator quand il fait un podium, une victoire. C'est un gagnant de Grand Prix aussi, donc ça, c'est assez intéressant. Je pense que ce sera une qui va être le fun à suivre. Donc, si on est capable de se battre justement avec Aston, si on est capable de se battre avec Alpine, je pense qu'Alpine, on va avoir un meilleur potentiel. On l'avait vu en fin de saison. Oui. Même si on a repris beaucoup d'éléments de la voiture de l'an dernier, je pense que tranquillement, pas vite, on va voir de quoi d'intéressant. Puis, tu sais, Étienne vient de le mentionner, Williams a un bon duo de pilotes expérimentés, et c'est vrai. Alex Albon connaît très, très bien la voiture. Carlos Sainz connaît très, très bien le métier. Non, je pense que ça va être une des fun à surveiller cette saison. Puis, je vous le dis au premier Grand Prix. Peut-être qu'à la fin de la saison, je vais m'être trompé. Mais je les aime bien, Williams, cette saison.
Je suis à la même place que toi. J'ai un gros hype, pour vrai, pour Williams. Puis, tu sais, l'année passée, ça fait une couple d'années, tu sais, qu'ils n'ont pas eu le loisir, mettons, de vraiment dire on choisit nos pilotes pour leur qualité. Pas pour... Parce qu'il apporte en termes de commandite et tout. Puis en ayant un gars comme Carlos Sainz, ben écoute, je pense que probablement c'était inespéré pour eux. C'était comme, c'était comme à peu près la seule porte qui restait ouverte à Carlos Sainz. Puis j'ai adoré Drive to Survive cette année parce que ça a apporté beaucoup de détails à plein d'épisodes qui sont arrivés pendant l'année.
Ouais.
Fait que ça, j'ai trouvé vraiment ça cool, tu sais, l'épisode de Carlos Sainz, l'épisode du départ de Lewis et d'Antonelli. Tu sais, on a réglé plein d'affaires, fait que j'ai trouvé ça le fun aussi.
Il y a une chose que j'ai trouvé drôle, là, c'est quand là, il s'en va cogner, là. Puis là, on pense quasiment qu'il s'en va chez Alpine, mais tu sais, je sais que c'est fait pour les gens qui suivent pas là, nécessairement à 100% la F1, mais j'étais comme... parce qu'il s'en va chez Williams. Là, il fait comme... On voit comme le bureau d'Alpine... Mais il ouvre la porte de l'hôtel, puis là, c'est Williams. Mais il a passé proche en temps pour Alpine, parce qu'il n'est pas allé signer le contrat la première fois. Puis aussi, ce que j'ai aimé pendant qu'on est là-dedans, excuse-moi, je suis d'un élan, là. pendant qu'on est là-dedans, quand on a eu le bout où ce que Joss Verstappen n'était pas content, après l'écurie, on l'a vu. Les déboires de Horner, on l'a vu. On a vu, en effet, Verstappen, le clan Verstappen, parler, ben, le père, avec Toto. On a vu tout. Puis c'est ce que j'ai aimé. Puis on a moins essayé de créer de drama. Peut-être un peu entre Norris et Verstappen, mais je ne peux pas vraiment les en vouloir parce qu'il faut quand même que le monde y suive quelque chose. Puis on a essayé comme de créer une petite rivalité. Greg, je pense que les gars sont extrêmement professionnels. Christine a dit un petit peu trop de Horner. Ouais, Horner, au début, on l'a vu beaucoup. Par la suite, j'ai aimé ça. On s'est promené un petit peu partout. J'ai bien aimé. On n'a pas vu Aston Martin, mais pas pantoute, là, cette année. Là, c'était
on a vu à un moment donné Flavio qui salue Lawrence.
Oui.
Puis c'est pas mal ça. Ben, j'ai l'impression que l'an prochain, avec Newey, on va. Ça va peut-être plus brasser un peu, mais tu sais, malgré que c'est quelque chose qui s'est quand même passé en cours de saison. Puis
c'est ça.
T'as raison, hein. Aucun chapitre là-dessus, c'est vraiment.
Puis c'est même. Vraiment
particulier. Ben, peut-être parce que ça touchait un ingénieur au lieu d'un. Mais c'était quand même une méchante grosse nouvelle. Puis tu sais, je veux juste. Finir, dans le fond, sur ce que tu disais, c'était cool, justement, de voir que il allait signer son contrat. L'appel de Flavio chez Alpine, honnêtement, je n'avais pas vraiment vu ça passer. Fait que j'étais content de voir que, OK, il est allé voir le vieux maudit chez Alpine.
Ben oui.
Puis écoute, puis c'est correct. Là, je pense que on disait que James Valve était un bon vendeur, puis c'est, je me rappelle plus quel responsable d'écurie, puis il l'appelait le révérend, là, comme il y a
quelque chose qui avait l'air d'un prêtre. Ouais, c'est Christian, je pense.
Le révérend James Valls.
Oui, puis ce que j'ai apprécié beaucoup, c'est qu'on l'a présenté, Flavio. Le crash gate, tout ça, parce que là, aussitôt que c'est arrivé, je me suis empêché de dire à ma blonde, hey, lui, là, c'est un spécial, puis tout ça. Puis tout de suite, bang, 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 on nous a montré. C'est qui, lui? C'est comment parfait. Ça se fait qu'il est controversé, puis qu'est-ce que cet homme-là, qu'est-ce qu'il a fait de positif, mais qu'est-ce qu'il a fait de négatif. C'est ce que j'aime de Drive to Survive, on est capable d'aller là, on est capable de dépeindre un peu notre sport. Tu sais, c'est pas la série de la reconstruction du Canadien où on interview des partisans qui sont comme « Ben, moi, je suis bien content de mon DG, là. C'est sûr qu'avec mon DG, là, oh mon Dieu que je les aime, là. » Puis, non, écoute, c'est de la boîte, puis c'est comment ça se fait que c'est ramassé là? Et j'avoue que j'ai eu une petite graine qui est arrivée dans l'œil. Je j'avais fait un peu de ménage, mais la fin avec Toto Wolff. Mais c'est tellement inspirant, c'est tellement bon ce qu'il a dit à Lewis. Est-ce que c'est stagé un petit peu pour les caméras? J'imagine que oui, là, l'espèce de message vocal. Puis là, on passe comme ça à la fin dans un grand truc dramatique. C'était super beau. L'homme qui aime beaucoup les exploits sportifs en moi a été très touché. Même que ma blonde s'est mise à faire comme « Ah, tu pleures! » Ouais.
C'était quand même c'était beau. Puis tu sais, c'est une relation qui dure depuis tellement longtemps puis qui l'a tellement pris par surprise. Même aujourd'hui, je disais encore, Toto, il dit, je checkais mes écrans, puis il dit là, je checkais Russell, Hamilton. Il dit, ah, c'est vrai, Hamilton, il n'est plus chez nous, mais il dit, j'ai le réflexe de le checker ses écrans quand je suis en train de checker ma course. Que, mais c'est normal. Je pense que c'est deux amis pour la vie. Là, fait que il n'y a pas de. Puis c'est ça, c'était quand même assez émouvant. Tu sais, veux pas, là, c'est. Toto, c'est comme il laisse partir son fils adoptif.
Clairement. Clairement. Fait que non, j'ai bien aimé ça. Si vous ne l'avez pas fini, ça vaut quand même la peine. Mais j'étais déçu au début. On a parlé un peu du Brésil. Puis j'étais là, je ne peux pas croire qu'ils ne parleront pas de la grande remontée de Max Verstappen. Je comprends que c'est un peu un mal-aimé, mais on s'entend que ça a été une course mémorable là, de la saison dernière.
On a suivi un peu du point de vue à l'endo. Hein.
Oui.
Ça
mais
rend peut-être pas hommage à l'exploit, je pense.
C'est ça. Puis dans l'autre course, ben, on voyait Alpine. Puis là, la P6. Mais tu sais, en même temps, je crois que comment je te dirais ça? On essaye d'aller chercher des petits trucs pour intéresser le monde. Puis c'est correct aussi parce que si on suit toujours le premier et qu'on ne s'intéresse pas aux autres, ben peut-être qu'on va trouver ça longtemps. Vous n'êtes pas les seuls, Hamilton en rouge, ça fait vraiment bizarre. Oh, oui, ben oui, c'est ça, ça fait bizarre, mais c'était le fun. Honnêtement, Carl David, quand les premières fois, là, j'étais comme wow, OK. Le cache jaune, tout ça, tout est tellement bien pensé. Je vis encore un peu le rêve du le hype de il va se passer quelque chose de magique. Écoute, quand ils étaient premiers, là, je sais que c'était provisoire puis qu'ils étaient en slick et tout ça. Là.
C'était quand même cool.
Écoute, là. J'avais les deux yeux dans le même trou puis j'étais comme, ben voyons donc, ils sont premiers. Imagine, il arrête de pleuvoir puis ça continue. Écoute, c'est un univers parallèle, là, mais ouais, c'est ça.
C'est normal. On attendait, tu sais, même ceux qui sont pas tant fans d'Hamilton, tu sais, c'est un des plus gros transferts, tout sport confondu, tu sais, qui a eu lieu peut-être dans les dernières années, fait que c'était le fun. Moi, ma fille a déjà fait la transition, 3 ans et demi, fait que là, la voiture rouge, c'est qui pilote la voiture rouge? Charles Leclerc, Lewis Hamilton.
Yeah!
3 ans, elle a déjà fait la transition. La voiture noire, elle sait que c'est plus Lewis qui est là. Là, je suis en train de prendre le casque jaune puis le casque rouge. On est rendu là, mais sinon, elle connaît ses couleurs de
elle
voiture.
Elle connaît ses couleurs. Hey, puis, écoute, c'est 1000 quelques jours pour le championnat que Max Verstappen a été leader du championnat de F1. Là. C'est la première fois depuis... on nous dit Espagne 2022. Donc, c'est fou raide, pareil. Hein.
Wow.
C'est vraiment fou raide.
Ça fait un méchant bout,
effectivement. Ouais. Mais je pense qu'on le considère pas comme battu. Je pense qu'on va avoir des trucs le fun. En tout cas, je le souhaite parce que, tu sais, pas d'allégeance nécessairement là, entre Lando et Max. J'ai déjà avoué sur le podcast que je suis pas un grand, grand fan de Lando, je serais très content pour lui. Tu sais, je veux dire, c'est un bon pilote qui gagne quelque chose. Je serais pas genre, pèterais rien chez nous. Là, ça va aller. Là. J'aime un petit peu mieux la hargne de Piastri, mais je serais content quand même pour Lando. Sauf que j'espère pas voir une écurie comme McLaren dominer toute la saison. Parce que je vais vous le dire tout de suite, même si on ferait comme, hey, c'est le fun en temps. Red Bull gagne pas. Après 4-5 courses, on va cette année de voir quelqu'un gagner par 20 secondes. Ça revient assez rapidement. C'était le cas aussi quand Red Bull a commencé à dominer. Hein. Tu sais, on était comme, ouais, ben, crime, on haïssait ça quand c'était Hamilton, mais là, on haïs ça quand c'est Max Verstappen. Hein, tu sais, fait que les dominances des voitures qui roulent 20-30 secondes en avant des autres, c'est jamais bon. Donc, mon cœur souhaite une très, très belle saison avec beaucoup de revirements. Peut-être pas autant pour qu'en Australie. Là, on ne pourrait pas t'offrir ça tous les fins de semaine.
Ouais, ben à un moment donné, ça prend un peu d'ordre aussi là-dedans. Puis, tu sais, moi, je suis à la même place que toi. Les dominations écrasantes, c'est pas bon pour personne. C'est pas bon pour la F1. C'est pas bon, tu sais, pour les spectateurs qui aiment la F1 et non pas qui aiment un pilote en particulier. Fait que moi, je suis pas mal convaincu aussi qu'on va avoir... c'est une belle saison de ce côté-là. Puis il y a déjà des questionnements hein, aussi qui sont qui commencent à être faits. Bien sûr, c'est toujours ça quand tu domines. Là, Christian Horner trouve ça très bizarre que la McLaren, il dit normalement, soit tu montes ta voiture est bonne pour monter les pneus en température, puis ça fait que tu vas les user rapidement. Mais il dit, cette voiture-là, elle est bonne dans tout. Elle est bonne pour maintenir la bonne fenêtre de performance. Elle est bonne pour sauvegarder ses gommes. Il dit ça. Habituellement, c'est un ou l'autre. C'est rare que c'est les deux. Puis, tu sais, là, dès le Grand Prix de Chine, bon, on a des renforcements pour les ailerons arrière aussi. On va... Puis, tu sais, je pensais pas que c'était pointu comme ça. Là. En ce moment, en mettant le poids de 75 kilos, je pense, il faut qu'il y ait deux flaps de l'aileron qui soient à 2 mm. Et là, on réduit ça à 0.5 mm, ça prend
c'est des équipements là, ouais.
De mesures précis pour être en mesure de pouvoir calculer ça. C'est complètement fou. Mais moi, je crois vraiment que McLaren sont legit dans ce qu'ils font. Là. Veux pas, ils ont... oui, en un an, ils sont passés de dernier à premier, mais je pense vraiment qu'ils ont trouvé des trucs que les autres ont peut-être pas pensé. Puis ça serait triste de découvrir que, bon, mais il y a peut-être une astuce qui a été utilisée qui n'était pas correcte, là, mais tu sais, on verra bien qu'est-ce qui va se passer, mais c'est sûr et certain que sont déjà préparés à ça. Là. Cette année, on le savait que pour les ailerons avant, ben, on est déjà c'est pas à partir de l'Espagne, je pense, que ça s'en vient pour les tests plus rigoureux. Pour les ailerons arrière, on était comme déjà en mode plus...
Le fameux mini DRS là, qu'on avait parlé là, avec les espèces
d'ouverture. Là, il semblait qu'il est rendu sur le bout de l'aileron. Là,
oui, c'est ça.
En tout cas, écoute, laissons la FIA faire ses devoirs, mais... C'est très cool de voir qu'on va avoir une belle bagarre. Moi, c'est ce que je retiens le plus, c'est que malgré qu'une Red Bull qui semble en retrait un peu, Max est capable de l'amener à un autre niveau parce que clairement, la voiture n'est pas au niveau de la McLaren en termes de performance pure. Et je suis convaincu qu'avoir piloté Piastri, il est capable beaucoup plus de jouer du coude avec Max que Lando. Et je pense que Piastri, il n'hésitera pas à finir une bagarre en accident avec Verstappen, un peu comme en 2001 avec Hamilton.
Ouais, en 21,
je pense
qu'il
est de cette trempe-là. Il n'a pas l'air d'avoir peur de rien. Il n'a pas l'air nerveux. Il n'a pas l'air à s'énerver. Tu sais, c'est un gars vraiment qui... Il me fait penser à Max un peu. Là,
Peu moins cocky, peut-être?
Oui, tout à fait, parce que tu sais, je ne l'ai jamais vu dénigrer quelqu'un d'autre, fait que, ou tu sais, lancer des commentaires tu sais, un peu. Ben, là, c'est sûr que Max, depuis ce qui est les espèces de règles, tu sais, qu'on ne peut plus à peu près rien dire, là, ses commentaires sont quand même très drôles. Tu sais. Puis, qu'est-ce que tu penses si ça va être sous la pluie? Ben, ça va être mouillé. Mais je pense que Piastri, à le voir aller. Puis avoir juste le dépassement sur Hamilton ou l'année passée à Monza, quand il a surpris Lando Norris, pas mal convaincu que c'est lui, moi, qui peut tenir tête à Max.
Parlant de dépassement, là, Antonelli sur Albon pour la P4, là, honnêtement, là, c'était quelque chose. Il sera le fun à voir. Il va avoir des hauts, il va avoir des bas, c'est sûr, c'est un rookie, tout ça, mais je crois que Mercedes, c'est pas des pieds de céleri et il savait très, très bien ce qu'il faisait en engageant un young gun comme ça. Je pense que ce sera un qui sera le fun à surveiller. Peut-être un petit peu dans les commentaires. Quand David, c'est drôle, PO, on dirait que j'ai lu dans tes pensées quand je parlais des dominations. Kevin dit que Piastri fait penser à Raikkonen dans la mesure où, même ou à Häkkinen auparavant. Également, on parlait de rythme de course là, qui était assez incroyable, même pour les conditions qui n'étaient pas au sec. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Adjar aurait été premier devant les Ferrari à ne pas avoir planté au début Just Saying. Ouais, je pense qu'il se serait fait rattraper assez rapidement cependant. Un rookie qui a terminé la course, on ne peut pas en dire autant des autres. Oui, ben écoute, il y en a deux qui ont terminé la course. Ça a été Antonelli en P4 et Berman. Mais Berman, ça a été difficile en fin de semaine. D'après moi, il va se replacer. Il y avait un bon espoir. C'est peut-être juste le fait qu'il était rendu titulaire. On va voir des hauts, on va voir des bas cette saison avec ces jeunes hommes-là. Puis c'est normal, là, je veux dire, ils vont apprendre. Là, je veux dire, t'arrives en F1, là, ça sera pas parfait.
Moi, ce que je retiens aussi, c'est que encore une fois, le crétin d'Helmut Marko, qui est allé rater, mettons, Bortoletto et Adjar comme des pilotes C, puis des pilotes B, c'est comme, mais de t'es qui t'as pas scrappé la confiance mais... de jeunes athlètes comme ça? En tout cas, c'est une autre couche que je vais rajouter sur son dos, mais c'est ça. Là, quand je l'ai vu, je pense que Bortoletto, il l'a traité de pilote, mettons, de type C ou de type B, mais tu sais, le gars, il vient de gagner le championnat d'F2. Là,
il avait gagné F3 avant, je me trompe pas.
Puis tu sais, il n'a pas gagné ça parce que c'est un cabochon. Là, fait que, en tout cas, d'autres commentaires stupides de la part de Helmut Marko, là, qui n'a plus vraiment sa place, comme on disait début d'émission, mais c'est ça. Cette saison, beaucoup de recrues. Il faut s'attendre à voir ce genre de choses-là aussi. Fait que déjà, très hâte à la Chine en fin de semaine pour un circuit plus traditionnel, comme tu disais, ce qui ne sera pas un circuit temporaire, donc un circuit permanent. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. J'ai regardé sur la F1, on n'a pas encore vraiment de prévision météo de sortie, mais espérons un week-end sur le sec, là, ça ferait du bien pour commencer la saison, pour faire suite à l'Australie. Ça me rappelait des mauvais souvenirs de la F1 dans deux ans, v'là deux ans, quand on est allé et qu'on était 30 du matin au soir. Mm-hmm. C'était très ordinaire.
C'était bien fun pour les séances, là, mais à part ça, ça fait combien d'années qu'on n'a pas vu tant de rookies en F1? Écoute, l'année la plus près, là, c'est l'entrée de Albon, Russell, Lando. Gasly, autant, là. Gasly, je pense qu'il est rentré.
Peut-être un an après.
Peut-être un an avant ou après, ouais. Dans ces eaux-là, là.
Ouais.
Mais je te dirais que oui, ça faisait un bon petit temps là, que c'était pas arrivé. Écoute, tu sais, Kevin, qui est une bonne encyclopédie, là, dit il y avait 5 recrues peut-être en 2010. Fait que, tu sais, des nouveaux là, qui arrivent, là, des nouveaux visages d'une shot. Le plus récent qui n'était pas le même nombre, je crois que c'est vraiment l'année Russell Albon avec Lando Norris. Charles Leclerc devait être pas loin de ces années-là. T'sais, on a comme eu quelques stabilités par la suite. Petite rafale, justement, le sujet, t'en as parlé, la Chine, la semaine prochaine, c'est un sprint. Hein? Donc, une séance de pratique, un sprint qualifying, un sprint, une séance de qualif et la course. Les heures sont de la boîte, donc la pratique va avoir lieu le 20 mars. Le 20 mars, ça, c'est jeudi à 23h30 jusqu'à minuit 30. Le sprint qualifying a lieu dans la nuit de jeudi à vendredi de 3h30 à 4h15. Par la suite, il y a un sprint. Ça, peut-être que vous allez pouvoir suivre ça à 11h le soir vendredi. La qualif a lieu dans la nuit de vendredi à samedi à 3h jusqu'à 4h du matin. Et la fameuse course à 3h du matin, elle est tough un petit peu. C'est la course qui a lieu donc de samedi à dimanche dans la nuit à 3h. Donc, pour le Grand Prix de Chine. Sinon, je veux aussi vous mentionner qu'on a eu la date de sortie pour le film F1 Movie. Ce sera présenté le 27 juin pour ce qui est du film. D'ailleurs, si jamais vous n'avez pas vu la bande-annonce, là, elle est disponible un petit peu partout. Vous pouvez notamment aller la voir sur YouTube, sur YouTube. Donc, ce sera le 23 juin pour ce qui est... on dit 23 juin. Puis North America, c'est 27. Ouais, okay. Exactement. Donc, spécial screening, c'est Warner Bros. OK, donc, IMAX Across North America, on parle du 27. Donc, il va comme avoir une espèce d'avant-première, le 23 pour du monde cool et branché, mais pour la moyenne des ours, ce sera le 27 juin. On est encore à évaluer si on va faire un petit quelque chose. Écoute, on était dans la location de minibus une couple de semaines.
Ça peut être cool.
Ça va dépendre du prix. T'sais. Je veux dire, si on paye tout 150$ pour aller voir un film au cinéma, ça va peut-être un peu cher.
Effectivement.
Mais j'ai mon permis de minibus. Ben, ça, je dis rien.
C'est correct. On pourrait... Écoute, on évaluera le projet en temps et lieu. Puis si tu me laisses un petit 30 secondes.
Vas-y.
La fantaisie s'est recommencée.
C'est vrai.
L'ami Dan Simard reprend là où il l'a laissé. Hein? Fait que Dan Simard, premier, super belle performance. Puis tu sais, c'était très tricky.
Ah, mon Dieu.
Puis, on est plein de monde au début du Grand Prix là, qu'on passait. Puis j'ai vu, je pense sur Instagram, qu'est-ce que Christine a fait. Genre, à chaque fois qu'il y a un pilote qui sortait, elle mettait un X dans une case de son fantasy. Ça ressemblait à peu près à ça pour moi aussi.
Oui, moi aussi.
Olivier Simard, 2. Mireille Dumais, 3. On a des nouveaux noms, écoute, que j'ai peut-être qu'ils étaient plus loin dans le top l'année passée, mais Louis-Philippe Bolduc, 4.
OK, vous connaissez pas.
Pascal Cloutier, 5. Le gars qui course, 6. Alain Grenon, qui nous avait demandé, je pense, les infos, donc a réussi à s'inscrire, donc 7e. P.O. Gagnon, 8e. Simon Bélil, 9e. Emmanuel Fugère, 10e. Donc, c'est cool de voir des nouveaux noms qui ont rejoint. Écoute, on est 37 équipes, fait que c'est quand même très, très cool de voir.
Je vais essayer de me reprendre, là, des autres, là.
Ben, tu sais, on a fait ça aussi vendredi soir après quelques breuvages. C'était peut-être pas dans notre forme optimale.
Ah, il y avait un petit vino puis deux, trois billets de prix. Soir, là, je pense. Hein, ça...
C'est correct. Écoute, c'est, chose dans ce temps-là, c'est les meilleures ou les pires prédictions, mais avec c'est la ça. Course qui s'est passée.
Ouais, écoute.
Là, c'était vraiment de la chance pure. Là,
ouais, je pense que oui. Là, à part si tu, écoute, tu prenais Norris puis tu étais capable. Mais ils sont chers cette année. Il n'est pas facile à faire. Il n'est pas facile. Tu me fais penser qu'on est là pour la fin de la saison avec la gang de la SFRS. Je vous avais jasé déjà de cette gang-là de F1 24. Donc, ils font des courses. Puis, c'est vraiment le fun. Moi, je pense que c'est la première fois que je vois ça. Et c'est comme un championnat combiné. Donc, tu as des gens qui courent en D1 puis qui courent en D2. Puis, ils font une espèce avec des points qui sont ramassés. Qui sont, comment je dirais ça, pour la D1, tu as plus de points, puis la D2, tu en as moins. Là. Donc, c'est quand même assez intéressant ce qu'on peut voir. Donc, on peut aller chercher des points, fait que c'est accessible à tout le monde. Puis, il y a un petit classement combiné à la fin. Donc, il leur reste 4 courses à la saison. Ils ont encore quelques sièges disponibles du monde qui veut le triper. Ça s'appelle la SFRS. C'est même diffusé sur Twitch avec l'ami Simon-Pierre qui diffuse ça. La prochaine course, ce sera au Mexique. Donc, salut la belle gang. Ils sont rendus avec une coupe de commanditaires. Donc, c'est vraiment un championnat combiné. C'est la première fois que je voyais ça. Il faut dire que je ne suis pas tout là, les trucs de F1 en ligne. Mais quand même, je trouvais ça le fun. Luc Maxime, qui est quelqu'un qui nous écoute en plus. Donc, je sais que c'est une belle gang. Je les salue, la SFRS. Donc, voilà. Puis on va aller voir un petit peu aussi mon fantasy, il est rendu où? Là, je vais aller voir ça dans les prochaines minutes. Je pense que ça va se placer un petit peu dans les prochaines semaines. En tout cas, du moins, je l'espère. Nous, on se retrouve déjà la semaine prochaine. Donc, on a fait le fantasy, on a salué nos commanditaires. Merci Opéra, merci Habitat Boréal. On a jasé en masse de F1. Le temps de vous remercier à vous d'avoir été là. Prochain épisode, le 24. Et bien sûr, pour les gens qui seraient arrivés un petit peu sur la fin ou qui ont manqué des petits bouts, ce sera disponible en balado là, d'ici la fin de la soirée ou demain. Tu as pas mal fait le tour, Jean-Michel?
Pas mal. Écoute, je pense que tout est fait. La saison est lancée, la glace est cassée. Fait qu'on se donne rendez-vous pour la Chine la semaine prochaine.
Exactement. Donc, passez une excellente soirée. Bonne Saint-Patrick. Et je vous souhaite en effet une bonne soirée. Et à la semaine prochaine pour les braves qui vont se coucher un petit peu tard ou qui vont se lever un petit peu trop tôt.
Ouais, on verra. Salut! Salut.